30, 14h.
Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous arrivez et nous rejoignez sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Anissa est là.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Le journal, c'est dans une minute avec Pierre de Villeneuve. Et juste après, on fait bouger la France. Aujourd'hui, c'est de transport routier que nous avons décidé de vous parler. Et vous allez voir que le secteur est lui aussi en pleine révolution. A tout de suite.
Il est midi et demi. Le journal de la mi-journée sur Europe 1 avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Bonjour Pierre.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et l'information de cette dernière heure, Pierre, c'est l'arrestation de Julian Assange à l'ambassade d'Équateur à Londres.
Ambassade dans laquelle le fondateur de Wikileaks avait trouvé asile en 2012 de crainte d'être extradé vers la Suède où il était accusé de viol. Le détail de cette arrestation dès le début de ce journal. La France a besoin de main-d'œuvre. Pôle emploi comptabilise près de 350 000 jobs disponibles. Secteur par secteur, nous verrons quels sont ceux où il y a le plus de demandes. Nous inviterons le directeur études et performances à Pôle emploi. Le Brexit, deuxième chance pour le 31 octobre. La date du report a été trouvée dans la nuit. Mais est-on sûr d'un accord? Cette fois-ci, à l'automne, nous serons en ligne avec le patron des députés conservateurs en France, Jeremy Stubbs. Dans ce journal également, l'adoption de la loi Pacte, dans laquelle figure le volet aéroport de Paris. Mais pourquoi cette nécessité économique, comme le dit Bruno Le Maire? Les Français ne savent pas speak English. Au-delà de la blague, c'est très handicapant pour les jeunes au collège. Et puis Brian De Palma adapte pour les États-Unis le village français, la série. Il y a de quoi pousser un cocorico. La météo, Valérie Darmon, encore des pluies au sud et ensoleillées au nord.
Eh oui, des Pyrénées au sud, du Massif central jusqu'au nord des Alpes. Le ciel est toujours encombré, ponctué de pluies passagères. Sur l'est de PACA et la Corse, les averses sont accompagnées d'orages. Partout ailleurs, c'est grand beau et les maximales sont un petit peu fraîches, entre 9 et 17 degrés.
Merci Valérie, rendez-vous tout à l'heure. Ce sera juste avant 13h, météo complète sur Europe 1.
Europe 1.
Une arrestation à Londres ce matin, c'est celle, Pierre, du fondateur de Wikileaks, Julian Assange.
Ouais, on peut dire que c'est historique, cette arrestation met fin à 7 ans d'exil à l'ambassade d'Équateur. Aude Leroy, qu'est-ce qui a permis aux autorités britanniques de faire cette interpellation dans une ambassade?
Eh bien, c'est une décision du président équatorien en personne qui a d'ailleurs défendu sur Twitter le retrait du statut d'asile du lanceur d'alerte. Alors tout cela parce que depuis quelque temps, il estimait que le fondateur de Wikileaks ne respectait pas les règles qui régissent sa vie quotidienne au sein de l'ambassade équatorienne, notamment en termes de visite ou de communication. Règles violées donc. Suspension du droit d'asile, donc plus d'immunité. C'est ce qui a permis à l'ambassadeur équatorien de Londres d'ouvrir ses portes à la police britannique. Ce n'est donc pas une intrusion. Alors sur les images, on voit un Julian Assange à la barbe longue et très blanche, en manteau noir, qui traîne des pieds, poussé en avant par 6 policiers en civil, juste avant d'être embarqué dans un fourgon. Cela faisait 7 ans que le fondateur de Wikileaks était réfugié dans cette ambassade d'Équateur. Tout ça pour ne pas être envoyé en Suède où il était accusé de viol. Alors depuis, cette affaire de mœurs a été close, mais en restant ainsi cloîtré dans cette ambassade équatorienne depuis 2012, le lanceur d'alerte continuait d'enfreindre son contrôle judiciaire imposé par les Britanniques.
Merci de ces toutes premières précisions, Aude Leroy. Des réactions déjà. L'Équateur, par l'intermédiaire du président Moreno, déclare que son pays a de manière souveraine retiré à Julian Assange son asile diplomatique. Du côté de Wikileaks, on dit que c'est illégal et Moscou accuse Londres d'étrangler la liberté.
Il est 12h33, vous écoutez Europe 1, le journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
La France, Pierre, a besoin de main-d'œuvre. Pôle emploi a dressé le bilan des secteurs où on a justement besoin d'embaucher.
Et ce besoin de main-d'œuvre porte même un acronyme BMO. Le questionnaire a été envoyé à 1 600 000 employeurs potentiels et lorsque l'entreprise répond, eh bien, les demandeurs d'emploi s'y rendent directement et peuvent y être recrutés sur place. C'est ce qui s'est passé hier à Strazel dans le Nord. On est chez Cato, c'est dans le secteur du bâtiment où l'on cherchait 10 coffreurs boiseurs pour la fabrication de mobilier urbain en béton. Reportage Jean-Jacques Herry.
Ils sont 19 candidats, CV sous le bras, à patienter à la porte de l'entreprise. Christophe Mortelette, le responsable de la production, se charge de leur accueil et il les met tout de suite dans le bain.
Je suis potentiellement votre futur hiérarchique, ok? J'ai un besoin de main d'œuvre dans mon usine, on a énormément de commandes, je dois satisfaire mes clients, c'est pour ça que vous êtes là.
La suite, c'est la visite de l'usine au fond du bâtiment. 2 hommes coulent du béton, pour beaucoup c'est une découverte.
Si vous avez des questions,
N'hésitez pas, rapprochez-vous.
Dusty, lui, travaille déjà ici. Il accompagne le groupe en connaisseur.
Il y a un an et demi de ça, j'étais en train de visiter l'usine. J'ai fait la semaine en immersion, j'ai intégré la formation. Et ensuite, je suis embauché chez Kato.
À l'issue de la visite, 5 candidats décident d'abandonner. Mais Jérôme, 45 ans et au chômage depuis un an et demi, veut continuer.
Franchement, c'est intéressant. On va passer des tests. Même si on rate tout ça, eux, ce qui leur importe, c'est que nous, on a l'envie et le vouloir travailler ici, en fait.
À l'issue de cette série de tests et d'un entretien individuel, 9 personnes ont finalement été retenues pour une formation de 2 mois, avec peut-être à la clé un futur contrat. Strazel, Jean-Jacques Héry, Europe 1.
Bonjour Stéphane Ducaté.
Bonjour.
Vous êtes directeur études et performances à Pôle emploi. Au total, 347 000 projets de recrutement ont été comptabilisés pour l'année 2019. On vient d'en voir une illustration. Est-ce que ça veut dire que les intentions de recrutement augmentent ?
Oui, les employeurs sont optimistes cette année. Ils nous ont annoncé 2 700 000 intentions de recrutement. C'est 350 000 projets de plus que l'an dernier. Plus 15% en termes de progression. Donc c'est une bonne nouvelle à la fois pour l'économie et pour les demandeurs d'emploi.
Est-ce qu'on sait dire justement où se situent les besoins les plus urgents ?
Alors on a une très forte dynamique dans le secteur de la construction. 26% d'intentions d'embauche. C'est la troisième année consécutive que ce secteur enregistre une bonne dynamique. On a également les services aux entreprises avec des progressions de 20% des projets de recrutement, avec notamment une bonne performance du transport et de la logistique, plus 35%. Et autre signe positif pour l'économie française, c'est une hausse de 20% dans l'industrie.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une inadéquation entre les formations d'une part et le besoin de main-d'œuvre d'autre part ? Autrement dit, est-ce qu'on ne devrait pas signaler dès l'adolescence les secteurs où potentiellement on a des besoins ?
Alors ce que nous disent les employeurs, c'est qu'ils anticipent des difficultés de recrutement parce que ils veulent recruter plus, donc il faut un peu de temps pour que les demandeurs d'emploi, le marché s'adapte. Et ces difficultés sont un peu plus élevées pour les petites entreprises, notamment qui n'ont pas de service RH pour lequel le patron n'a pas non plus de temps à consacrer au recrutement et souvent dans l'urgence. C'est pour ça que nous, à Pôle emploi, on les accompagne. On a 4300 conseillers dédiés à la relation entreprise qui vont vers les employeurs pour les aider à recruter. Et nous avons lancé depuis l'automne dernier, pour répondre à ces difficultés de recrutement, une opération d'envergure qu'on appelle hashtag vers un métier et qui consiste à organiser un événement chaque semaine dans chaque agence pour répondre à des problématiques sur des métiers en tension. Voilà, ça fait 24 000 événements dédiés qui ont été réalisés depuis le début de l'opération et qui permettent à des employeurs de rencontrer des demandeurs d'emploi lorsqu'ils veulent recruter sur un métier en tension, ou alors ce qui permet de faire découvrir des métiers pour lesquels il manque de candidats.
Est-ce qu'il y a des régions qui sont plus particulièrement en demande, justement, sur la carte de France ?
Oui, le trio de tête des régions cette année, c'est les Pays de la Loire, qui voient leur intention de recrutement progresser de 25% et qui sont suivis par la Normandie et les Hauts-de-France. Vous voyez des régions qui sont dans des situations très contrastées, puisque vous avez les Pays de la Loire qui sont la région avec le taux de chômage le plus bas et les Hauts-de-France, au contraire, qui sont la région avec le taux de chômage le plus élevé. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle pour cette région.
Merci beaucoup de ces précisions, Stéphane Ducaté, directeur études et performances à Pôle emploi. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1.
Et justement, Pierre, puisqu'on parle emploi et région, les médecins sont amenés à s'installer ici ou là. Une commission spécialisée de l'Ordre des médecins vient de rendre les résultats d'une enquête sur les lieux d'installation.
Oui, c'est la commission Jeunes médecins, alors qu'on parle beaucoup des déserts médicaux et que dans les grandes villes, souvent, ça s'agglutine tellement il y a de praticiens en concurrence. Plus généralement, Mélanie Gomez, alors qu'on dit que les médecins sont en burn-out, qu'ils croulent sous la paperasse, franchement, qu'est-ce qui motive encore les jeunes à s'installer ?
Eh bien, leur première motivation, leur première condition même, je dirais, c'est la proximité de leur famille et des services publics. C'est-à-dire que ces futurs médecins, ils sont prêts à s'installer, pourquoi pas même dans un désert médical en milieu rural, mais pour cela, ils veulent pouvoir y amener leur famille dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'il faut que leur conjoint y trouve aussi un emploi, qu'il y ait des services publics, donc comme des écoles pour leurs enfants. En fait, ils sont juste comme tous les jeunes de leur génération, ils sont prêts à bosser là où on a besoin d'eux. C'est le cas d'Isaline, 27 ans. L'an prochain, elle va ouvrir son cabinet de généraliste, ça sera dans un désert médical, mais sans sacrifier sa vie personnelle.
Je compte pas, même dès le début, même sans enfant, faire un temps plein. Je pense travailler 4 jours, 4 jours et demi par semaine au début et après quand j'aurai 2 enfants à revoir. Parce que ça me semble important d'avoir du temps pour moi. C'est un métier quand même qui est très prenant. Je pense que le médecin qui dédie sa vie à la médecine, les patients aller chez lui même à 23h du soir, c'est relativement fini. Enfin, moi, je vais me forcer à avoir ces temps de pause pour moi, pour justement continuer à bien faire mon travail et à rester passionnée, quoi.
Alors, pour préserver sa vie personnelle, justement, elle va ouvrir un cabinet avec une autre généraliste et même sûrement un kiné. Et ça aussi, c'est un vrai déterminant. Les futurs médecins ne veulent plus travailler seuls. Ils veulent travailler dans une maison de santé ou au moins dans un exercice coordonné avec des infirmières, des pharmaciens, des sages-femmes. Bref, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est travailler en équipe.
Merci Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1.
Il est 12h40.
Europe 1.
Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, le Brexit reporté et la privatisation d'Aéroports de Paris adoptée. À tout de suite.
Il est 12h42 sur Europe 1, la suite du journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Et ça y est, la loi Pacte vient d'être adoptée, Pierre. Ça veut dire logiquement que la privatisation d'Aéroports de Paris devrait suivre, malgré l'affronte de 248 députés qui souhaitaient un référendum sur le sujet.
Oui, référendum sur le thème « On vend les bijoux de famille ». Jusqu'à présent, l'État possède 50,6% du capital d'ADP. Alors, je mets concrètement pourquoi l'État a-t-il décidé de céder ses parts?
Alors, il y a deux raisons. D'abord, des raisons financières. La participation de l'État est aujourd'hui valorisée environ 10 milliards d'euros. Et cette somme, elle doit alimenter le fonds d'investissement pour l'innovation, dont l'objectif est de financer des projets liés notamment à l'intelligence artificielle. Et puis, deuxième raison, l'État n'est pas un bon gestionnaire. C'est ce qu'on dit clairement dans l'entourage de Bruno Le Maire. Donc, pour développer l'activité d'Aéroports de Paris, faire des investissements, il n'est pas le mieux passé. D'autant que ce n'est pas, selon Bercy, une activité stratégique. ADP gère, rappelons-le, Roissy-Charles de Gaulle, Orly, Le Bourget et une dizaine d'aérodromes. Il exploite aussi les boutiques, les restaurants, les parkings de ces aéroports. Mais cette privatisation ne se fera pas demain, hein, malgré le vote de la loi. Il faut bâtir un cahier des charges et puis l'État veillera à lancer l'opération au bon moment, c'est-à-dire quand la valorisation boursière sera la meilleure possible.
Anne-Laure, privatiser ADP, ça change quoi concrètement pour nous?
Alors, pas forcément grand-chose. D'abord, le contrôle des frontières restera aux mains de l'État. On parle là de la compétence des douaniers, de la police présents dans ces aéroports. Il y a quand même un élément à regarder de près, c'est le montant des tarifs fixés par Aéroports de Paris. Ce qu'on appelle les redevances aéroportuaires, elles sont payées par les compagnies aériennes. Pour les opposants à la privatisation, ces tarifs, ils risquent d'augmenter. Et à l'arrivée, c'est le passager qui paiera la facture. Faux, rétorque-t-on au gouvernement, l'État gardera la main sur ses tarifs. Tous les 5 ans, il fixera avec la nouvelle société gestionnaire le montant de ses redevances sous le contrôle d'une autorité indépendante.
Merci Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1. L'épouse de Carlos Ghosn a dû revenir au Japon pour être interrogée par les enquêteurs. L'avocat de Carlos Ghosn a indiqué qu'elle a répondu en toute sincérité sous serment. 500 migrants évacués dans le calme ce matin de 2 campements insalubres dans le nord de Paris. La plupart étaient installés dans des tentes sous les bretelles de l'autoroute A1 aux portes de la capitale. Une centaine de ces personnes étaient réunies en famille. Ils vont maintenant trouver place dans des centres d'accueil et des gymnases.
Il est 12h45, vous écoutez Europe 1, la suite du journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Avec Pierre, une nouvelle date pour le Brexit, le 31 octobre prochain.
Oui, et vous remarquerez que c'est le jour d'Halloween. Bon, ça n'a rien à voir, hein, c'est juste la veille de l'entrée de la nouvelle Commission européenne. Et puis c'est surtout un gros compromis entre les pays qui voulaient beaucoup plus de temps, comme l'Allemagne, et ceux comme la France qui voulaient beaucoup moins. D'ailleurs, Emmanuel Macron s'est expliqué là-dessus. Bonjour Jeremy Stubbs.
Bonjour.
Vous êtes le président du Parti conservateur britannique à Paris. Dites-moi, ce qui va nous empêcher, qu'est-ce qui va vous empêcher, vous les Britanniques, de nous refaire exactement le même scénario que cet hiver? Personne ne sera d'accord et le 31 octobre, ça sera non à tout et on va à nouveau se retrouver dans l'impasse.
Et nous allons savoir dans les quelques jours ou semaines à venir s'il y a un accord entre Madame May et Monsieur Corbyn.
L'opposant.
Si ces négociations aboutissent, il y aura une sortie du Royaume-Uni avant mai et tout le problème sera réglé.
Oui. Donc ça veut dire que dans les jours prochains, on saura exactement quelle est la situation.
Exactement.
On n'arrive pas à. On a vraiment un problème de liaison avec
vous,
Jeremy Stubbs.
Vous avez dû vous déplacer peut-être, Jeremy Stubbs, essayer de bouger un tout petit peu. Est-ce que vous nous entendez? Bon, je crois qu'on a définitivement perdu la liaison avec Jeremy Stubbs.
Il doit avoir un portable britannique.
Quelque chose me dit, Pierre, qu'on va de toute manière en reparler d'ici le 31 octobre prochain.
On va reparler et de toute façon, Theresa May a dit que effectivement cette sortie avec un accord aurait lieu avant le 31 octobre. Merci quand même, Jeremy Stubbs, d'avoir été un petit peu en ligne avec nous.
Jeremy Stubbs qui parlait un bon français hein, pour les quelques mots que nous avons entendus. Visiblement, l'inverse n'est pas forcément vrai.
Ouais, I don't know what you mean, mais c'est vrai, les Français ne sont pas fortiches en anglais, c'est presque une malheureuse tradition qu'on a pu voir d'ailleurs chez certains chefs de gouvernement en France. Mais le constat est plus grave, car le CNESCO, le Conseil National d'Évaluation du Système Scolaire, révèle qu'à la fin du collège, eh bien, 75% des élèves, c'est-à-dire trois quarts, sont incapables de pratiquer un anglais correct. Ça va plus ou moins bien à l'écrit, mais à l'oral, c'est une catastrophe. Yasmine Akatou l'a constaté devant un lycée parisien.
Demander à des lycéens de traduire en anglais « Je veux apprendre des langues étrangères ». Les yeux se lèvent au ciel, les grimaces se forment sur les visages, les langues s'en mêlent.
Oula, I want to learn strange... Non.
I want to learn a strange language.
Il aurait fallu dire « I want to learn foreign languages ». Les lycéens rencontrés reconnaissent tous avoir plus de lacunes à l'oral qu'à l'écrit, à chacun sa raison.
Au moment où le prof il nous interroge, si on dit une mauvaise réponse, il nous dit carrément next. Au final, j'arrive pas à apprendre.
C'est beaucoup d'écrit et pas assez d'oral. J'ose pas y participer. J'ai peur de me tromper, c'est comme ça.
Et justement, pour Brigitte Gruson, qui a dirigé l'étude, le droit à l'erreur en classe est la clé d'un bon apprentissage.
Quand vous prenez la parole en classe et que, aussitôt que vous l'avez prise, on vous corrige parce que vous avez fait une erreur de phonologie, oublié un S, etc., vous finissez par vous dire je vais plus intervenir. La classe de langue, c'est un laboratoire. C'est un endroit où on s'essaye.
Les élèves doivent donc oser essayer, quitte à se tromper. Failure is part of success, dit-on outre-Manche. En français, l'échec fait partie de la réussite.
Voilà, reportage de Yasmine Akatou devant un lycée parisien où effectivement on a un peu de mal à parler l'anglais. Que se passe-t-il au Soudan ? Une foule en liesse s'est rassemblée dans le centre de Khartoum dans l'attente d'une déclaration de l'armée à la télévision. Les manifestants scandent, le régime est tombé et justement l'armée qui annonce la libération de tous les prisonniers politiques.
Il est 12h49. Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. Gros plan sur les gelées qui inquiètent dans le Mâconnais et l'adaptation d'un village français aux États-Unis. A tout de suite.
Il est 12h52. Vous écoutez Europe 1, la suite du journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Mais Pierre, vous reconnaissez ce générique ?
Il me semble que c'est celui du Village français, série télévisée qui retrace notamment la vie de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Cocorico, on apprend que Monsieur Brian De Palma allait adapter la série aux États-Unis, Yves Roger.
Yes, le tournage est prévu dans le Kentucky, dans un village fictif comme dans la série française. Immense succès ici, je vous le rappelle, entre 2009 et 2017. Alors comment le réalisateur de Scarface et des Incorruptibles a-t-il eu vent du petit village français du Jura ? Écoutez les confidences d'Emmanuel Dossé, créateur et fondateur de la série française.
Brian De Palma, à l'occasion d'une visite à Paris, a déclaré dans la presse qu'il a découvert un village français, qu'il a vu tous les épisodes et qu'il trouve que cette série est remarquable. Nous avons retrouvé le mail personnel de Brian De Palma pour lui proposer d'adapter un village français autour de la guerre de sécession, en reprenant exactement le même concept de départ que le village français.
Alors, pas de nazis ni d'occupation pendant la guerre de sécession, évidemment, mais des esclaves et des esclavagistes, des unionistes et des sécessionnistes, avec là encore des zones grises et des ambiguïtés à explorer. Alors attention, les Français sont bien en train d'écrire le pilote avec Brian De Palma. Reste maintenant à trouver un financeur américain, une plateforme type Netflix ou Amazon, ou alors une chaîne de télévision qui pourrait alors racheter les droits aux Frenchies.
Et les acteurs ?
Pas encore.
Non, on va attendre.
Ça y est, vous commencez à rêver, vous,
oui,
les
évidemment,
acteurs.
Évidemment.
Bon.
Un petit Brad Pitt, peut-être.
Vous connaissez Diego Costa, peut-être qu'il pourrait jouer dans un village français. En attendant, il joue plus. Voilà, pour 8 rencontres en Espagne, pour avoir insulté et agrippé l'arbitre lors de la défaite contre le FC Barcelone. Je vous rappelle qu'il est attaquant de l'Atlético Madrid. Chaque année, à la même époque, les vignerons retiennent leur souffle. Le mois d'avril et ses gelées nocturnes, voilà un cauchemar. Alors que les premiers bourgeons ont fait leur apparition dans les vignes, souvent c'est la Bourgogne qui est touchée. C'est le cas encore cette année, le gel a frappé en fin de semaine dernière le vignoble du Mâconnais. Malheureusement, il y a des dégâts. Reportage de notre correspondant Jean-Luc Bougeon.
Domaine de Bourgard, juste au-dessous de la roche de Solutré, Frédéric Burier inspecte ses vignes, plusieurs hectares en pouillis fuissés.
Vous voyez, donc on voit bien qu'il ne va pas rester grand-chose là. Comme ça par exemple, c'est un qui est tout brûlé des deux côtés. Et c'est vraiment touché très gravement. C'est tout noir quoi. Quand c'est tout noir, c'est que c'est mort. Moi je pense dans le pire des cas, on a des vignes qui sont touchées à 80%. C'est un crève-cœur, surtout qu'on avait déjà fortement grêlé ici en 2016. Donc voilà, c'est compliqué quand même.
C'est dans la nuit de jeudi à vendredi dernier que le gel a frappé, moins 3 degrés et un taux d'humidité important. Beaucoup de bourgeons à peine éclos n'ont pas résisté, explique Jérôme Chevalier au milieu de sa parcelle de Mâcon Village.
Jeudi soir, il y a tombé une petite averse, mais très peu, qui a laissé des gouttes d'eau sur les bourgeons. Et quand ça a gelé au lever du jour, ça a mis de la glace et c'est ce qui a fait que le bourgeon a gelé. C'est vrai que c'est le plus mauvais moment parce que quand les bourgeons commencent à débourrer, c'est là qu'ils sont le plus sensibles. Et en plus, on avait eu le week-end d'avant un temps magnifique, il faisait plus de 20 degrés, donc elle avait vite poussé. Et là, en une nuit, ça a tout anéanti, quoi.
Néanmoins, tout espoir n'est pas perdu. Le gel a en effet épargné les parcelles perchées sur les coteaux. Les jours qui viennent jusqu'à Pâques et sa lune rousse seront cruciaux. Les vignerons vont avoir les yeux fixés sur le thermomètre. Mâcon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Et manifestement, les températures vont continuer à dégringoler. Valérie Darmon nous en dit plus dans un instant. Merci Pierre, on se retrouve dans un instant.
Tout de suite.
Il est 12h55.
Europe 1.
Restez avec nous, on embarque à bord de nos camions aujourd'hui pour faire la route avec eux et voir comment le secteur du transport est en train de se réinventer. A tout de suite.
Et c'est l'heure de la météo sur Europe 1.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
Avec vous, Raphaël Duchemin.
Et avec Valérie Darmon, belle amélioration sur le pays.
Absolument, à partir de demain et pour tout le week-end. Alors, au lever du jour, nuages bas en Aquitaine, Normandie, Pays de la Loire. Pour la journée, en région PACA, en Corse, le temps qui restera agité. Belles éclaircies entrecoupées de passages nuageux, mais sans pluie sur les Pyrénées aussi. Et partout ailleurs, le soleil qui va dominer largement. Les minimales seront toujours fraîches, avec de petites gelées encore au nord.
Oui, mais on en parlait dans le Mâconnais, ça continue.
Ça continue, mais ça tire à sa fin tout de même. Le mercure oscillera entre moins 2 et 3 degrés. Au sud, le thermomètre affichera 3 à 11 degrés sur le pourtour méditerranéen. Et les maximales oscilleront entre 10 et 15 au nord et 14 à 18 au sud. C'est vrai qu'elles sont un peu frisquées malgré l'ensoleillement. Ça grimpera la semaine prochaine.
Et ce week-end ?
Ce week-end, alors beau samedi sur l'ensemble du pays. Quoique quand même un peu agité sur les Ardennes, les Hauts-de-France, l'Alsace et la Lorraine avec le retour de la neige à partir de 400 mètres. Ailleurs, ça va. Orage toujours sur le sud. Et puis dimanche, plutôt variable, avec du très beau temps cette fois sur le sud, entre l'Occitanie, le Limousin et les Bouches-du-Rhône.
Merci Valérie.